Salut, je suis Serge Pout, éditorialiste à la CIR TV. Connaissez-vous Maman ? À cette question, certains, un grand nombre, me diront « bien sûr que oui ». Cependant que d'autres vont avouer n'en avoir jamais entendu parler. Eh bien, je ne vais pas vous brosser ici la biographie de cet humoriste international, spécialiste du stand-up. Mais en écoutant et en regardant ses prestations publiques, il m'a semblé percevoir chez lui des atomes crochus avec la littérature. J'ai donc la ferme conviction que ce pan de sa trajectoire peut inspirer bien de comédiens et producteurs d'art dramatique. Maman, plus proche des voyelles que des voyous, c'est un podcast pédago de la CIR TV.
Bonjour.
Bienvenue dans la bibliothèque de la CIR TV, où vous voyez, il y a tellement d'ouvrages.
Oui.
Mais pas le vôtre.
Non, pas encore, mais très bientôt. Très bientôt, la bibliothèque de la CIR TV sera l'une des premières à être achalandée avec ses recueils des chroniques de Maman.
J'entre par là parce que, en vous écoutant, depuis le début de vos chroniques sur le journal Afrique,
oui.
Très en France,
oui. Oui, la lecture, ça a été vraiment mon hobby avec le football. Donc quand je jouais pas au football, j'étais en train de lire, mais tout quoi. Bande dessinée, romans, journaux, je dévorais tout. Je le dois à mon père qui a une formation d'enseignant avant d'entrer dans la fonction publique. Et donc tout ce qu'il ramenait à la maison, je prenais. Et comme on dit, les chats ne font pas des chiens. Voilà, il m'a donné ce virus de la lecture. Et quand on était petits, nous, on n'avait pas tout ce que les enfants d'aujourd'hui ont. Tous ces réseaux sociaux, les téléphones, c'était la lecture et ça faisait évader, voyager, ça développait l'imaginaire, ça développait le monde intérieur. La lecture, c'est ça, quoi. Le premier livre vraiment, moi, qui m'a marqué, dont je me souviens encore, c'est « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de littérature. Ça, c'est le livre jusqu'à aujourd'hui. Même ma fille, je lui ai conseillé de le lire. Vraiment, c'est mon coup de poing. C'est le premier livre que j'ai lu sur ma propre initiative et pas guidé par un programme scolaire. Non, c'était pas une lecture obligée. Je l'ai lu et ça m'est resté. Mais sinon, L'Enfant Noir, Camara Lyle, l'aventure ambiguë, tous les livres de Mongo Betty, et puis toutes les bandes dessinées, Spirou, Tintin, les Marvel, j'ai tout lu. Black le Rock, Hakim, Zembla, on a tout lu. Mister No, tout lu. Yé aussi, exact, voilà. Elle a tout lu, tout ce qui tombait, des vieilles bandes dessinées en noir et blanc, comme les plus modernes. Oui, la lecture n'a pas d'odeur, n'a pas d'a priori.
Mais est-ce que c'est la lecture, là, qui émet en vous l'envie de griffer le côté humoristique ?
Bah, l'humour naît de tout, hein. L'humour naît de tout. C'est un ensemble de couches qui se sédimentent. Et puis un beau jour, ça vient. À force de lire, on a envie aussi de faire partager son monde intérieur au lecteur. La lecture donne l'empathie, la curiosité de connaître le vécu des autres, de se mettre à la place de l'autre, de vivre ses joies, ses peines, ses drames. Et quand on a beaucoup de lectures, après on a envie de faire partager ça aussi. On a envie de s'adresser aux gens sans les connaître, et puis peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le goût de l'humour, ça vient aussi des bandes dessinées, par exemple, toute l'école de la bande dessinée belge, du journal Spirou, avec Gaston Lagaffe, avec les Tuniques Bleues, avec l'agent 212. Et ça, c'est un clin d'œil du destin, puisque je viens faire mon spectacle à l'Institut français. À l'époque, ça s'appelait Centre culturel français. Et donc, les jours où il n'y avait pas école, moi, je venais me réfugier dans la bibliothèque pour lire tout ce qui me tombait dans les mains. Donc le goût de l'humour vient de ça, la bande dessinée, et puis il y a d'autres influences comme des humoristes comme Jean-Michel Cancan, Oncle Otiama Morbiquet, l'homme de fer, et puis tout plein d'autres, Coluche, Desproges, Raymond Devos, voilà.
Vous avez je l'ai déjà dit ailleurs, mais vous nous le dites là maintenant sur votre antenne CRTV. Oui.
Vous avez
vécu au Cameroun?
Oui, 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 j'ai vécu au Cameroun. En fait, je suivais mon père qui était diplomate, donc c'est grâce à ça que j'ai vécu au Cameroun, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en fonction des affectations de mon père.
Alors du Cameroun, vous disiez tout à l'heure, Otsama,
oui.
Vous étiez là à l'époque où on a...
Oui, jusqu'à présent, on a encore les disques de Tiama, de Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan, qui est la première star continentale de l'humour, jusqu'à présent. Mais avec Gohou, on réécoute les classiques de Jean-Michel Cancan. Il y a des humoristes ivoiriens qui n'ont jamais connu Jean-Michel Cancan, qui l'imitent à la perfection. Donc c'est un exploit, c'est quelqu'un qui est resté dans la mémoire des gens, Jean-Michel Cancan. C'est la première star africaine francophone de l'humour.
Oui. Quand vous disiez tout à l'heure,
ouais.
Otsama, lui, m'a dit de ce qui a été décrit chez lui,
ouais.
C'est la lecture des livres de,
ouais,
théâtre de Guillaume Oyonobia.
Ok.
Oui,
oui. Oui, oui, j'ai entendu parler de ça, même si je n'ai pas lu, mais c'est des références qu'on connaît. Moi, c'est tout un ensemble, je ne dirais pas... Je suis venu, moi, à l'humour, hein, complètement par hasard. Quand j'étais au collège, je faisais de la bande dessinée, humoristique ou même de science-fiction. J'écrivais des nouvelles en rédaction, j'étais très bon. Mes rédactions étaient lues dans d'autres classes pour comme exemple, quoi. Donc c'était quelque chose que j'aimais, mais j'adorais la science aussi, et donc j'ai même suivi une formation scientifique. Et je suis parti en France faire un troisième cycle en physiologie végétale. Et c'est par hasard comme ça, un ami m'a entraîné dans un atelier de comédie. Je travaillais en même temps dans un laboratoire à Paris et à Versailles. Et c'est comme ça, semaine après semaine, j'écrivais un sketch, deux sketchs. Et plus tard, une boîte de production m'a signé et c'est devenu mon travail. Non, stand-up, comme je dis toujours aux jeunes, pour moi, c'est du marketing. Jean-Michel Cancan, il faisait du stand-up. Des proches, il faisait du stand-up. Coluche, il faisait du stand-up. Donc, c'est juste du marketing que les gens sont allés prendre aux États-Unis pour moderniser, soi-disant qu'ils font un nouvel art. Sinon, c'est un homme face à un public. La seule différence entre les sketchs et puis ce qu'on peut dire le stand-up, c'est qu'on casse le quatrième mur du théâtre. C'est-à-dire, dans ce qu'on fait, dans l'humour, on s'adresse au public. Il y a une interaction avec le public, alors que le théâtre, il y a ce quatrième mur où on est dans notre texte, peu importe le public, et c'est ça. Mais sinon, stand-up, le griot faisait du stand-up, parlait aux gens. Des gens comme Desproges, Coluche, Jean-Michel Cancan, même en Côte d'Ivoire, il y en a d'autres, plein. Ils faisaient du stand-up. Pour moi, c'est un mot marketing pour se dire, voilà, ce qu'on fait, on est moderne. Voilà, exactement.
On a plus précisément en rapport avec l'écriture,
oui.
Ça vient, ce qui vient, comme disait le chanteur, ça sort comme ça.
Oui.
Est-ce qu'il y a l'écrit
qui précède? Ah, bah, l'écrit, c'est la base de tout, hein. L'écrit, c'est la base de tout. Dans la Bible, dans les livres saints, c'est toujours l'écriture. C'est la base de tout. La première phrase du Coran, on dit Ikra, c'est-à-dire lis. C'était lis. Donc, il y a une écriture. Et c'est ça qui fait la beauté de cet art. Moi, c'est la base, c'est l'écriture. Donc, quand j'ai une idée, j'ai toujours mon carnet, j'ai toujours mon téléphone portable, je prends des notes. Dès que j'ai une idée, parce que les idées s'envolent, hein. Donc je note tout. Tout part de l'écriture. La chronique, c'est une écriture. Les sketchs, c'est une écriture. Donc, non, la base, c'est l'écriture. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes qui commencent. Je dis, écrivez, écrivez, écrivez. D'ailleurs, c'est le premier critère de sélection pour participer au Parlement du Rire. C'est sur les textes. Il n'y a pas, je suis fils de un tel, je connais un tel, je connais maman. Non. Tu nous envoies tes textes. On lit, il y a un comité de lecture qui lit. Si c'est bon, on t'appelle. On t'envoie ton billet, ton contrat, tout tes visas, ta réservation d'hôtel. Mais c'est juste, on a lu ton texte.
Il y a quand même aussi une distance, ou alors une progression du texte.
Ah oui, oui. Bah, le texte se travaille. Le texte, c'est comme un sculpteur. C'est comme le bois, ça se travaille. La pierre, ça se travaille. On le moue, on le façonne, on le sculpte. Le texte, tout le temps, ça évolue. Tout le temps. Les mots se cisaillent, les mots se polissent. C'est un exercice incroyable, l'écriture. Oui, oui. Oui.
Il y a le maman de la scène radiophonique.
Oui.
Alors, vous avez 3 minutes pour les 2:45.
Voilà, 2:50 maximum. C'est vraiment le maximum 2:50. Il faut le temps du lancement et de la désannonce.
Vous devez faire ça tous les jours.
Oui.
Comment ça se passe?
Bah, là, même là, quand je suis en train de voyager, quand je suis au Cameroun, il y a des idées qui viennent. Et puis, c'est basé sur l'actualité. Donc c'est ce que je fais, je note, ça travaille tout le temps. C'est une seconde nature.
Mais est-ce que vous êtes passé par un petit coaching, on va dire une petite parenthèse, maîtrise des règles de la chronique?
Non.
On fait une chronique.
En fait. Non, on ne m'a pas dit comment, mais j'ai commencé. Comme je vous l'ai expliqué, c'est des scènes ouvertes en France. Je me suis lancé comme ça dans l'humour, la scène. Et immédiatement, ça a pris. Immédiatement. Et je faisais... J'ai la boîte de production qui m'a signé, c'est celle qui faisait les tournées de Manu Dibango, par exemple. Blue Line Production. Manu Dibango, Ray Lema, Idir. Et donc, ils m'ont pris et je faisais les premières parties. J'ai donc fait des premières parties de Manu Dibango partout en France. Et c'est comme ça qu'à chaque fois que je partais, 15 minutes, ça plaisait aux gens. Et du coup, les salles qui accueillaient disaient « Ah, mais s'il a un spectacle, on le veut. » Et ils me programmaient pour l'année d'après. Et c'est comme ça que j'ai eu des articles. Et Laurent Ruquier m'a appelé. Et Laurent Ruquier, c'est vraiment le premier chez qui j'ai appris la chronique écrite, le rythme, aller vite. C'est un autodidacte comme moi là-dessus. Et c'est avec lui que j'ai appris sur Europe 1. Et sur France Télévisions.
Mais aussi, votre particularité, quand on me suit bien en temps d'oreille, c'est le jeu de mots.
Oui.
Alors ça, c'est pas juste une fantaisie, hein. Il y a une culture derrière.
Oui, c'est la lecture. Tout part de la lecture, de l'amour des mots, de décortiquer le mot. C'est pas pour rien que le seul jeu de société auquel j'ai joué et que je joue, c'est le Scrabble. C'est le seul, sinon les autres, je joue pas. C'est les mots, triturer les mots, ça me vient aussi de mon background scientifique où on doit décortiquer tout, que ça soit un mot, que ça soit une plante, que ça soit un concept. Donc c'est ça. En fait, pour moi, un mot, c'est d'abord un ensemble de lettres, c'est une brique. Donc quand je vois un mot, je vois les différentes briques, quoi. C'est la botanique, ouais, je viens de la botanique, c'est exactement ça, de la physiologie végétale plus exactement.
Végétale, est-ce que vous dites que ça partilie avec la poésie ?
Oui, c'est la poésie de la nature, la poésie de Dieu, c'est ça. Donc c'est lié, c'est Dieu a fabriqué ces choses et nous les hommes, on regarde. On essaie de donner un sens à ça et on arrive à analyser 10% de ce que la nature a donné.
On va sortir de cette émission, cet entretien,
oui,
en essayant d'ouvrir votre bibliothèque privée. Vous ne regardez pas seulement le grand livre de la nature.
Oui.
C'est quoi l'étude de chevet?
J'ai lu beaucoup au début, par passion, pour me divertir, des fictions, des trucs d'aventure, des romans. J'ai tout lu, hein, Alexandre Dumas, Alex Haller, des Milan Kundera, Tolstoï, tout ce qui me venait. Si, c'est de Bernard Dadier. Bernard Dadier, en plus, en Côte d'Ivoire, j'habitais pas loin de chez lui. Amadou Kourouma, même Senghor, Aimé Césaire. Aimé Césaire, ça a été mon premier coup de poing ici, quand j'étais au collège, ici, Vogt. J'étais au collège Vogt et on avait un prof de français, que Dieu ait son âme, André-Emmanuel Bétienvay, il m'a marqué. Et il nous a fait découvrir Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Il adorait, il nous a donné cet amour-là. Donc tout vient de la lecture. Puis après, c'est les biographies que j'aime lire. Et puis beaucoup les livres d'histoire. C'est l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun de Deltombe. Voilà. Exactement. C'est celui-là que je suis en train de lire en ce moment. Oui, parce que mon dernier spectacle, je parle de l'histoire de l'Afrique. Histoire pas drôle de l'Afrique. Je parle de la conférence de Berlin 1884 à aujourd'hui pour voir l'influence de cette période-là. Oui.
Juste une petite improvisation pour que les gens se disent, ce n'est pas un faux maman. Si vous devenez chroniquer justement à partir de ce livre de merde de Tati Sarah,
oui. Oui. Non, en fait, comme je l'ai dit, tout vient de l'écriture. Donc, sur ce sujet, l'improvisation, souvent, elle est casse-gueule. Donc, pour que les gens sachent que c'est Maman, je leur dis bonjour, c'est Maman de la très, très démocratique République, le pays le plus démocratique au monde, avec à la tête notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur. Que le miel soit sucré à ton palais, notre leader bien-aimé, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est le Gondwana, chacun met le nom qu'il veut. C'est bien pour ça. Chacun met le visage qu'il veut. Et c'est pour ça que cette chronique, depuis 2009, elle est toujours d'actualité. Parce que chaque Africain qui écoute, et même au-delà de l'Afrique, il dit « Ah, c'est chez moi ». L'autre fois, j'ai fait une chronique sur le délestage pour dire que les délestages ne font pas Ramadan. Les Togolais disent que c'est eux, les Camerounais disent que c'est Enéo, les Nigériens disent que c'est la Nigelec, les Ivoiriens disent que c'est la CIE, les Congolais disent que c'est chez eux. Voilà, c'est le Gondwana parle à toute l'Afrique. Merci à vous, merci à vos auditeurs de m'avoir écouté.
C'était Maman. Plus proche des voyelles que des voyous, un podcast pédago de la CRTV présenté par Serge Pout.